par le préfet de Lyon, ce qui est sans aucun profit et pour la subversion des auditeurs. Et du principe du sort, va se présenter à aujourd'hui. L'ouvrir sur la page à avoir honte et faisant justement la parole de la vérité, mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus grand dans l'anxiété, et leur parole rendra comme une gangrène. Desquels sont humaines et filets, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection avait déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant sursaut, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité qui prononce au nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des bâtons et d'achats, mais aussi des bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, il sera en vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable par qui ils ont été pris pour faire sa volonté.
Avait exhorté Timothée à se souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, de la semence de David selon son évangile. L'apôtre a commencé par présenter une telle personne, glorieuse, digne de toute adoration, et Timothée est exhorté à se souvenir d'une telle personne, à y penser toujours. C'est la toute première chose, penser au Seigneur, se souvenir de lui, selon les titres divers qui sont les siens, Jésus, Christ, ressuscité d'entre les morts de la semence de David. Par la même, les regards de Timothée étaient dirigés vers le ciel. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et d'autre part, vers la terre, cette terre où un jour le Seigneur Jésus, postérité de David, règnera. L'apôtre souffrait beaucoup, il endurait des souffrances. Dans ce verbe endurer qu'on voit plusieurs fois dans cet alinéa, il y a cette pensée de patience extrême. Il endurait des souffrances, mais il acceptait de tout endurer, dit-il un petit peu plus loin, pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Nous avons donc la deuxième grande pensée de cet alinéa. Tout d'abord, la glorieuse personne de Christ. Ensuite, le magnifique plan du salut de Dieu. Point de départ, ce salut opéré par Jésus-Christ. Point d'arrivée, la gloire éternelle. Et l'apôtre déclare que c'est une parole certaine, mais aussi il développe la pensée de la responsabilité qui se rattache à cette parole certaine, mentionnée plusieurs fois dans les épîtres pastorales à la fin du livre de l'Apocalypse, formant comment toute la première parole certaine est celle du salut opéré par Jésus-Christ, les dernières paroles certaines ont trait à la gloire éternelle. Et alors, avant que nous arrivions dans une telle gloire, il y a une responsabilité dont nous devons nous acquitter. Tout d'abord, nous souvenir que si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La vie est présentée sous un jour futur. Nous avons la vie de Dieu maintenant, mais cette vie éternelle est présentée comme étant aussi à venir. Nous vivrons aussi avec lui, et tout en réalisant une telle vérité première, nous sommes appelés à souffrir, mais l'apôtre nous encourage en disant que nous régnerons aussi avec lui. Et puis la contrepartie de cet ensemble de vérités, c'est que si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et en terminant la réunion hier après-midi, nous avons rappelé déjà ces témoignages rendus par le prophète Sophonie à ce qu'est Dieu, malgré tout, malgré notre état de faiblesse, de déchéance, de ruine. Il y a ces dernières paroles que Dieu ne fait jamais défaut. Dieu ne fait pas défaut, il a fait des promesses, il les réalisera certainement. Et cela parce qu'il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de toute grâce. À cause de sa grâce, il accomplira de telles promesses. Nous pouvons être incrédules ou infidèles, mais lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et maintenant, Timothée, qui avait donc à se souvenir de Jésus-Christ, avait de notre côté à remettre ces choses tellement importantes. Tout d'abord, la glorieuse personne de Christ, on n'y reviendra jamais trop souvent, on n'en parlera jamais trop souvent. Puis ce glorieux plan du salut et de la gloire éternelle, formulé, établi par Dieu, voilà les choses que Timothée devait remettre en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit et pour la subversion des auditeurs. On ne remettra jamais trop souvent ces choses fondamentales. Une telle vérité, faut-il le dire, a toute son importance pour nous encore aujourd'hui. Nous sommes exhortés, on sait combien le ministère de frère, qui ne se lasse pas de présenter la personne de Christ, qui ne se lasse pas de présenter le propos éternel de la grâce de Dieu, combien ce ministère est bénéfique, il est utile, il est riche d'édification et de bénédiction. Voilà ce que nous-mêmes aussi, nous avons à remettre en mémoire. Et d'un autre côté alors, étant occupés de ces choses merveilleuses, pourquoi est-ce que nous allons nous livrer à des disputes de mots qui produisent tant que l'édification, des disputes de mots, ce qui est sans aucun profit, ce qui est pour la subversion des auditeurs. Il y a donc là, dans ce premier verset de notre lecture, dans ce verset 14, il y a une très importante et très riche instruction. Remettre en mémoire ce qui a trait à la personne de Christ, ce qui a trait au glorieux plan de Dieu et de sa grâce éternelle, évitant d'autre part alors tout ce qui n'est pas pour l'édification des frères, des sœurs, des assistants dans une réunion, dans une autre.
Entendre, nous aimerions rappeler un passage. Philippiens 3. L'apôtre dit, pour redire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et c'est votre sûreté. 2 Pierre 1, l'apôtre dit qu'il veut que les croyants se rappellent à leur mémoire les choses qui ont été dites, afin qu'ils soient affermis dans la vérité présente. Il s'étudie, dit-il, à leur rappeler ces choses. Et 1 Jean 2, un passage important, pour vous, verset 24, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Aujourd'hui, l'attrait des nouveautés est un grave danger pour la génération actuelle, mais pas seulement pour la génération actuelle, mais aussi pour nous. À quelque âge que nous soyons, l'attrait des nouveautés est un grave danger et nous avons à demeurer dans les choses que nous avons apprises. Remets ces choses en mémoire. On pense chacun sans doute ici à la scène de 2 rois 4, quand le jeune prophète est allé chercher des coloquins sauvages. On ne les connaissait pas. Et le résultat, c'est que la mort était dans la marmite. Il a fallu qu'Élisée apporte la farine. Triste. Ainsi, n'est-il pas bon d'insister sur ce premier verset, en effet, de notre lecture. Remets ces choses en mémoire. Gardons ce qui a été donné. Gardons la parole. Et celui qui garde ces choses demeure dans le Père et dans le Fils.
Il y a des choses qu'il faut oublier et d'autres qu'il faut garder soigneusement dans la mémoire. L'Épître aux Philippiens, déjà cité, chapitre 3, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Tout ce qui constitue la trame de nos circonstances qui font partie du passé, à travers lesquelles la grâce de Dieu s'est manifestée, nous oublions, nous devons oublier ce qui n'est pas profitable. Oublions les choses qui sont derrière. Ne nous rassasions pas du passé, tendant avec effort au contraire vers celles qui sont devant, pour acquérir davantage de Christ, pour étendre nos possessions spirituelles. La mémoire, d'autre part, est une fonction du plus haut prix pour l'esprit de l'homme. Elle lui permet de retenir, d'emmagasiner des éléments qui ressurgiront à point nommé selon le désir ressenti par l'individu. Cette mémoire est donc une fonction de la plus haute importance dans l'homme, mais le Seigneur nous montre comment elle doit fonctionner. Et nous venons d'entendre le prix des enseignements qui nous ont été donnés, fondamentaux, du commencement, dont il faut nous souvenir, car la tendance de notre esprit est le but que poursuit l'ennemi, et de nous faire oublier ces choses. Quand le Seigneur dira à ses disciples, « Mais n'avez-vous point de mémoire ?» Ils avaient connu des interventions extraordinaires de la part du Seigneur. Puis il leur parle, dans l'Évangile selon Marc, verset bien connu du chapitre 8, il leur parle de se garder soigneusement du levain des pharisiens. Et les disciples interprète cette parole du Seigneur comme étant une espèce de reproche, ne s'étant pas muni de pain. Mais le Seigneur dit, mais il ne s'agit pas de pain dans ce que je vous dis. Ne vous souvenez-vous pas, n'avez-vous point de mémoire? Le Seigneur leur reproche donc d'avoir oublié ce qu'il avait accompli pour eux de façon si extraordinaire. Et nous voyons qu'ils étaient, hélas, préoccupés de toutes sortes de choses inutiles, et oublions une chose aussi essentielle, qui a testé pour eux la puissance et la grâce du Seigneur au milieu d'eux. D'un autre côté, c'est le Saint-Esprit qui nous fait souvenir. Lui, dit le Seigneur dans Jean 14, dans une des 7 fonctions que le Saint-Esprit opère, depuis que le Seigneur l'a envoyé de la part du Père sur la terre, lui vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Et c'est par le Saint-Esprit, en effet, que nous sommes conduits dans la vérité et que nous pouvons la saisir et la retenir. Donc nous oublions certaines choses, nous avons à oublier certaines choses inutiles, mais nous avons à retenir soigneusement dans notre mémoire tout ce qui a trait à Christ, tout ce qui est un enrichissement pour notre âme. N'avez-vous point de mémoire? Et employons-nous à la faire fonctionner comme il convient, en vue du bien, de l'élargissement et de la jouissance de nos âmes.
D'être présenté ici s'applique bien sûr
d'abord à chacun des rachetés du Seigneur qui doit, pour lui-même, garder en mémoire tout ce qui lui a été enseigné. Dans le cas de Timothée, il y a quelque autre chose qui s'ajoute. C'est son service particulier. Il doit, lui, non seulement, comme fidèle, garder en mémoire les choses qui lui ont été enseignées, mais il doit aussi les remettre en mémoire aux autres. Cela implique de sa part qu'il n'aura aucune lassitude, qu'un dévouement sans cesse constant, et de la part de ceux qui seront enseignés aussi le désir de ne pas rejeter, de ne pas repousser ces choses, bien qu'il s'agisse simplement de les remettre en mémoire.
Différents actes du Saint-Esprit dont notre frère vient de parler dans l'Évangile selon Jean, dans les chapitres 14, 15 et 16, on peut dire ceci en passant, que ce rappel par le Saint-Esprit des choses dites par le Seigneur Jésus, nous l'avons évidemment essentiellement dans les Évangiles. C'est dans les Évangiles que nous voyons le Seigneur, que nous entendons le Seigneur, et le Saint-Esprit avait, après le départ du Seigneur, rappelé tout ce que le Seigneur avait dit aux disciples. Dans le même chapitre 14, il est dit du Saint-Esprit qu'il enseignerait également toutes choses. L'enseignement, bien nous l'avons dans tout le Nouveau Testament, c'est clair, mais cet enseignement, doctrine, c'est le même mot. Cette doctrine, ne l'avons-nous pas essentiellement dans les épîtres? Nous nous occupons de la dernière en ce moment, l'épître de l'apôtre Paul. N'avons-nous pas, dans les épîtres de l'apôtre Paul et des autres apôtres, bien entendu, cet enseignement ou l'exposé de la sainte doctrine. Le Saint-Esprit, par plusieurs serviteurs, allait donc parler, allait exposer un tel enseignement. Alors, à la fin du chapitre 15, il est parlé du Saint-Esprit qui rendrait témoignage, et le témoignage rendu par les apôtres au livre des actes de ceux-ci, ce témoignage n'est-il pas exposé d'une façon admirable? N'avons-nous pas là le témoignage rendu par le Saint-Esprit, par le moyen des apôtres, témoignage rendu tout d'abord à la résurrection du Seigneur Jésus? Et enfin, au chapitre 16e, il est dit que le Saint-Esprit annoncerait les choses qui devaient arriver. C'est bien sûr la part de plusieurs portions de caractère prophétique dans le Nouveau Testament, mais essentiellement du livre de l'Apocalypse. Ainsi donc, nous avons comme une preuve à supposer que nous ayons besoin de cette preuve de la divine inspiration du Nouveau Testament. Nous en avons là comme une démonstration très claire. Les Évangiles, les Actes, les Épîtres, l'Apocalypse, véritablement dictés par le Saint-Esprit lui-même.
Vous avez parlé ici, au verset 14, des choses qu'il devait remettre en mémoire sont les mêmes que celles dont il est parlé au verset 2, c'est-à-dire les choses que tu as entendues de moi. Les choses que Timothée avait entendues de la part de l'apôtre.
Nous n'avons pas déjà la même pensée au verset 13 du premier chapitre, où il importait pour Timothée pas seulement se souvenir des choses entendues de la part de l'apôtre, mais il devait, est-il dit, qu'il devait avoir un modèle, comme une copie, comme un exemplaire des saintes paroles qu'il avait entendues de l'apôtre dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. On voit combien le Saint-Esprit prend à cœur de souligner l'importance capitale du ministère de l'apôtre Paul, ministère même qu'il importait pour Timothée d'avoir par écrit et un modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi.
Paroles parle donc à Timothée, son enfant, pour l'encourager dans le service. Et lui dit, remets ces choses en mémoire des autres. Et son sept, me semble-t-il, du paragraphe précédent. Il nous parle, comme on l'a vu hier, de trois aspects. La personne de Christ. Ensuite, des conseils de Dieu envers nous. Et troisièmement, des exhortations pratiques. Je pense que tout serviteur qui désire servir le Seigneur et encourager les saints doit veiller à être équilibré sur ces trois plans. La personne du Seigneur Jésus, les conseils de Dieu envers nous et les exhortations pratiques.
Alors, il devait dire à Timothée ce qu'il avait à faire. À la suite de l'exhortation du verset 14, il suit cette autre exhortation du verset 15, « Étudie-toi à te présenter, premièrement, approuvé à Dieu, deuxièmement, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, et troisièmement, exposant justement la parole de la vérité, évitant les discours vains et profanes. » Et le premier caractère est cette approbation vis-à-vis de Dieu. Étudie-toi à te présenter, à prouver à Dieu. Cette pensée de l'approbation vis-à-vis de Dieu, de la part de Dieu, est énoncée plus d'une fois dans les écrits de l'apôtre Paul. Eh bien, Timothée devait réaliser cela, cette approbation. Comment est-il dit à la fin de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10e, il y a cette pensée, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Dernier verset de 2 Corinthiens 10. Et puis alors, ne pas avoir honte de l'Évangile, ce n'était pas chose facile que de parler de l'Évangile en ces temps de position féroce du début du christianisme, de la part des méchants. Et puis alors, exposant justement la parole de la vérité, cette vérité dont l'apôtre parle plusieurs fois au cours de sa dernière épître, tant il est vrai que la vérité est le fondement même et l'objet même de tout ministère selon la pensée de Dieu. Voilà ce que Timothée avait à réaliser.
Il y avait là un côté positif dans l'activité recommandée à Timothée. Il y avait aussi, malheureusement, à réprimer les paroles des autres. Il était investi de la part de l'apôtre d'une autorité à suivre. Le Seigneur, Paul lui dit, protestant devant le Seigneur, il avait là non pas seulement le fait de déconseiller, mais avec énergie, il devait se lever contre les discours du vin profane, qualifiés déjà au début, dans le verset 14, de disputes de foi. Dans la première épître, chapitre 6, verset 4, ces disputes de mots sont qualifiés de maladies. La maladie des questions et des disputes de mots. D'un côté, la vérité. La vérité qui remplit aussi richement la parole, c'est la parole de la vérité. Et il y a là une matière abondante et riche dans toute la vérité, si on veut aussi, dans toutes les vérités contenues dans la parole. Alors, combien il est vain de ravir à l'Esprit de Dieu qui met ses vérités devant nous, la place qui lui revient, et lui substituer l'activité de l'intelligence de l'homme, car dans toutes ces disputes de mots, dans ces discours vains et profanes, c'est la chair qui trouve son avantage. D'un côté, la parole. De l'autre, nous trouvons un peu plus loin, la parole. La parole de ceux qui vont plus avant dans la piété. D'un côté, une parole qui est génératrice de vie.
la parole de la vie. Et de l'autre côté, cette parole des hommes, la parole, qui, au contraire, engendre la nécrose, n'est-ce pas ? Elle rouge comme une gangrène. Quelle position ? Mais tout ce qui est de l'esprit et vie. Les paroles, a dit le Seigneur, Jean 6, sont esprit et vie. Et voilà les vaines paroles des hommes qui engendrent mort. La gangrène. Et nous, tout à l'heure déjà, on a mis en garde contre la recherche des nouveautés. D'une façon générale, je pense que l'un des grands écueils qui nous menace, c'est l'intellectualisme. Et il est d'autant plus fâcheux quand il prend pour champ d'action la parole même de Dieu. S'arrêter sur les mots, faire des discussions de mots. Alors, où on va ? Ou bien le chapitre 6 le disait, n'est-ce pas ? Les disputes, les mauvais soupçons, les belles disputes d'hommes, voilà ce que ça engendre. Et parce que l'Esprit de Dieu, qui expose la vérité, a été laissé de côté pour faire place à l'activité de l'homme. Cela ne va pas conduire à autre chose. Discutez-vous. La parole rongera comme une gangrène. Ils iront d'autant plus avant dans l'impiété. Discours vains et profanes. Il n'y a aucun profit à cela. Et c'est étranger à la pensée de Dieu. Profane. Eh bien, nous pouvons reconnaître que dans l'enseignement qui nous a été laissé, l'enseignement du siècle dernier était riche en pensée de Dieu, et ne s'arrêtait pas aux subtilités de l'être. L'être de Jésus, l'amour de Jésus. Le livre de Dieu ne s'analyse pas, ne se distingue pas comme un livre d'homme. C'est la pensée de Dieu, riche, et qui nous apporte tellement de bénédictions pour s'en tenir. Alors, prenons garde à ne pas laisser libre cours à notre propre pensée lorsque nous sommes là devant la parole de Dieu. Parce que nous courons le risque, sans doute encore beaucoup plus dans ces temps-là, de tomber dans ces discours d'un profane. Protestant qu'on n'est pas, disputez-vous. Il faut non seulement que le serviteur de Dieu donne, prêche la vérité, mais avec énergie, il peut s'élever contre tous ces discours vains et profanes. Protestant qu'on n'est pas, disputez-vous.
De trouver ces termes dispute de mots, en même temps, dans le même passage, discours vains et profanes, en opposition à la parole de la vérité, dans le même contexte. Discours vains et profanes. Aux anciens d'Éphèse, en Milet, lorsque Paul les a fait appeler, il rendra ce témoignage. Je n'ai pas manqué de vous enseigner des choses profitables, des disputes de mort qui sont sans aucun profit. Au contraire, ce que l'apôtre avait enseigné, partout, depuis le commencement, la parole de la vérité, ce qui est profitable. Et les deux thèmes sont mis en opposition dans le prophète Samuel. C'est intéressant peut-être de citer ce verset. Chapitre 12 du premier livre de Samuel. Le peuple se trouve dans une situation bien difficile, bien dangereuse, bien préjudiciable pour lui. Mais il y a des ressources, et Samuel les présente au peuple et dira dans ce verset que nous désirons citer, au verset 21, Et ne vous détournez point, 1 Samuel 12, verset 21, car ce serait vous en aller après des choses de néant, qui ne profitent pas. Discours vains et profanes, discours de néant, autre part à la note, qui ne sont que du vent, ce qui est vain, ce qui est appelé le néant, ce qui n'est que du vent. En opposition avec les choses que Paul présentait, choses qui sont profitables et que nous retrouvons ici, ce serait vous en aller après des choses de néant qui ne profitent pas et qui ne délivrent pas, car ce sont des choses de néant. On ose aussi citer un verset du psaume 94. Évidemment, Dieu ne flatte pas l'orgueil de l'homme. Dieu ne donne aucune place à l'homme. Il nous montre dans ce psaume quelques-uns des caractères, il nous donne quelques-uns des qualificatifs sous lesquels il le jauge, sous lesquels il l'explique. Mettant Dieu de côté, il fait un appel dans le verset 8 en disant « Mais comprenez, vous les stupides d'entre les peuples, l'homme, si intelligent qu'il soit, quant aux qualités de son esprit, pour Dieu, s'il n'est pas gouverné par la crainte de Dieu, si la parole n'a pas d'entrée au-dedans de lui-même, il est stupide. » Et nous lisons dans le verset 11 de ce même psaume, « L'Éternel connaît les pensées des hommes, qu'elles ne sont que vanité. Si belles soient-elles, si bien qu'elle soit exprimée avec un style remarquable qui satisfait l'esprit, qui flatte l'homme, qui le met en évidence pour Dieu, les pensées des hommes, quelles qu'elles soient, elles ne sont que vanité. » Voulons-nous encore un autre verset dans le livre de l'Exode et à la fois dans le livre des Nombres, nous allons voir dans deux versets comment Dieu, avec qui Dieu associe l'homme. Ce n'est pas très populaire, et nous comprenons bien que l'homme naturel repousse de tels enseignements, de tels arguments. Mais ne correspond-il pas, ne correspondent-ils pas exactement à la vérité lorsque nous sommes placés dans la lumière de Dieu? Il fallait donc mettre à part tout premier-né en Israël. Il appartenait à l'Éternel à partir de la rédemption. Et dans le chapitre 13 du livre de l'Exode, si nous voulons lire un verset, le 13e, nous lisons ceci, « Tout premier fruit des âmes, l'âme, la stupidité, tout premier fruit des âmes, tu le rachèteras avec un agneau. Tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la tête. » Et dans le même verset, « Tout premier né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras. » Il faut quand même admettre que c'est une association pour le moins remarquable, si pas étrange pour l'homme. Le premier né des âmes, et le premier-né de l'homme, dans le même verset. Si nous tournons quelques pages au livre des Nombres, nous allons aussi faire une constatation qui ne manque pas d'intérêt et qui nous met à notre place, qui nous met véritablement à notre place, qui montre que les pensées des hommes, si élevées soient-elles quant à lui-même, elles ne sont que vanité. Jusqu'à ce qu'ils disent comme Abraham, « Je ne suis que poussière et cendre, un être de rien, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui ?» Mais quand nous le voyons dans le dernier Adam, selon le conseil de Dieu, comme il valait la peine que Dieu s'occupe de cet homme stupide en lui-même pour l'élever si haut dans la connaissance et la jouissance de ce que Dieu est en lui-même. Ce second verset dans Nombre 18, le voici. Au verset 15, « Tout ce qui ouvre la matrice de toute chair qui sera présentée à l'Éternel, tant homme que bête, sera à toi. Seulement tu ne manqueras pas de racheter le premier-né de l'homme, et tu rachèteras le premier-né des bêtes impures. » Exode 13, l'âme, la stupidité, dans le même verset que l'homme. Et ici, dans le même verset que l'homme, les bêtes impures. Chacun peut conclure en soi-même et se dire, voilà la manière de parler de Dieu. Elle ne flatte pas l'homme, mais ne correspond-elle pas exactement à ce que nous sommes au fond de nous-mêmes? Et Dieu conclut en disant, je connais les pensées des hommes, les disputes de mots qui le mettent en évidence, qui lui donnent de l'importance, tout cela n'est que vanité, n'est que du vent. Je connais les pensées des hommes, qu'elles ne sont que vanité.
De Dieu doit toujours être vu avec le plus grand respect. On pense à ce serviteur remarquable qu'a été Esdras. Au chapitre 9e de son livre, il est ainsi désolé en considérant l'état du peuple. Et vers moi s'assemblaient tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël. Nous avons aussi cet autre passage, c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, à celui qui tremble à ma parole. Il n'y a qu'un agent pour nous faire entrer dans la connaissance des Écritures selon l'important passage de 1 Corinthiens 2, c'est le Saint-Esprit. Les choses spirituelles se communiquent par des moyens spirituels. Mais on a connu de chers chrétiens âgés dans des visites qui certainement ne connaissaient pas beaucoup la doctrine, mais quand ils ouvraient la Bible, on sentait un profond respect, le désir d'apprendre, la crainte de Dieu.
Le père Sikhetsaras, on peut aussi le présenter comme un ouvrier. Il est question dans notre passage comme un ouvrier approuvé à Dieu. Et la preuve, nous l'avons dans son livre, lorsque l'Esprit de Dieu nous dit de lui dans ce chapitre 7 de son livre, au verset 10, Esdras avait disposé son cœur à rechercher la voie de l'Éternel. Donc, s'enquérir avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, de cette parole connue alors, la parole de la vérité connue alors. Il avait disposé son cœur à rechercher la voie de l'Éternel. Et ensuite, c'est un ordre moral indispensable pour que l'ouvrier soit approuvé à Dieu. Il avait recherché la parole de Dieu, il l'avait retenu, il l'avait saisi, il l'avait placé dans sa mémoire, mais en même temps, nous lisons et à la faire. Et seulement ensuite, et à l'enseigner en Israël. Retenons cet exemple, il avait disposé son cœur à rechercher la voie de l'Éternel, et à la faire, et ensuite seulement à l'enseigner. Une grenade au bas de la robe du souverain sacrificateur, ensuite une clochette. D'abord la grenade, ensuite la clochette.
Il importe donc que nous soyons occupés de cette parole, en est un exemple remarquable. Il recherchait la loi de son Dieu, recherchant la parole de Dieu pour nous-mêmes, nous nourrissant de ses saints orats. Plus tard, le Seigneur, s'il le juge à propos, se servira de nous pour une présentation publique de cette parole. Mais il importe de suivre les principes énoncés, par exemple, dans le cas d'Esdras, l'un après l'autre, selon l'ordre que la parole de Dieu assigne à ses différentes attitudes et préoccupations. Il est remarquable de voir l'importance de la parole dans cette dernière épître de l'apôtre Paul, épître de la vie de l'Église, et la parole de Dieu est mise en évidence également d'une façon remarquable. Cette épître se divise en 4 chapitres. Dans chacun des chapitres, il est parlé au moins une fois de cette parole. Au chapitre 1er, au verset 13, il est parlé des 5 paroles que Timothée avait entendues de l'apôtre. Au chapitre 2e, le passage qui nous occupe, la parole de la vérité qu'il importe d'exposer justement. Et puis au chapitre 3e, l'écriture, cette parole écrite, l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour tout bonheur. Et sans qu'au chapitre 4e, dernières exhortations de l'apôtre, ultimes exhortations de ce serviteur, nous avons ces mots. Et bien maintenant, étant donné l'importance et la valeur d'une telle parole, la parole de Dieu, à côté de laquelle les paroles des hommes sont fort peu de choses, même le néant, comme les différents passages de l'Ancien Testament nous l'ont rappelé, qu'avons-nous à faire ? Prêche la parole. Nos frères, tout à l'heure, nous ont parlé d'une certaine attirance que l'on éprouve pour ce qui est là, ce qui est nouveau, ce qui n'aurait jamais été dit. Qu'avons-nous à faire ? Et dans les temps combien exerçants, prêche la parole. Dans chacun de ces 4 chapitres, la parole de Dieu, pour le moins, est mise en évidence.
Ces discours peints et potables, caractéristiques de l'impiété, l'apôtre Paul exhorte donc son entendu à être un ouvrier qui n'a pas honte, exposant justement la parole de la vérité. C'est sur ce mot « honte » que j'aimerais encore attirer votre attention. Honte de quoi ? Au temps où l'apôtre Paul écrivait à son enfant Timothée, la vérité ou l'évangile était d'une part combattue et d'autre part corrompue. Le résultat apparaissait donc presque comme un échec. Et c'est dans cette atmosphère que l'apôtre Paul peut alors exhorter Timothée, quoi qu'il en soit, de l'état du témoignage qui avait été confié à l'homme, de continuer à présenter la parole et de ne pas en avoir honte. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, le premier chapitre au verset 16 pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi ? Car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. » Bougez premièrement au grec. Avons-nous, chers amis, quelque peu conscience de la valeur de l'Évangile et de cette vérité à laquelle le Seigneur lui-même a pu rendre témoignage devant Pilate? Avons-nous conscience de la puissance de cette parole? Un de nos frères, aujourd'hui le Seigneur, illustrait ce verset 16 du premier chapitre des Romains de la façon suivante. C'était d'ailleurs un médecin. Et il supposait un pays et qui était envahi par une épidémie contagieuse mortelle. Et il envisageait, dans sa seconde hypothèse, que les recherches médicales puissent aboutir à trouver un remède et qui permettrait et de guérir et d'enrayer l'épidémie. Et ce frère disait: pensez-vous que ce médecin qui allait pouvoir apporter à ceux qui étaient condamnés par cette épidémie, qui était appelé à leur apporter la guérison, aurait honte de son remède? Eh bien, l'Évangile, pour l'apôtre Paul, a aussi cette valeur, car il reconnaît dans cet Évangile cette puissance pour délivrer l'homme et le délivrer de quelle maladie? Beaucoup plus grave que l'épidémie. Car ce qui atteint l'homme, nous le savons, c'est le péché qui conduit à une mort et à une mort éternelle. Et l'apôtre Paul était heureux de pouvoir apporter au monde ce remède qui allait le délivrer de cette mort à laquelle tout pécheur était destiné. Et il rappelle ceci à Timothée, de ne pas avoir honte de l'Évangile. Et malgré le déclin dans lequel se trouvait déjà le témoignage à cette époque, il pouvait dire à Timothée, n'aie pas honte, mais présente droitement
découpe droitement, on dit la note, continue à découper droitement cette parole qui a la puissance de sauver.
À te présenter, approuvé, approuvé.
On sent que c'est là le vrai caractère de tout ministère. Rechercher l'approbation de Dieu. Quoi qu'il en coûte, vous rencontrez de l'opposition de la part du monde, cela ne nous surprend pas. Peut-être même quelquefois incompris, même dans la famille de Dieu.
Tout croyant, tout racheté à un service pour que le Seigneur lui accomplisse. Tout ce que nous sommes appelés à faire, quel que soit le service, doit toujours découler la communion avec Dieu. Des rapports constants, constants avec Dieu. Car c'est là seulement que j'aurai le discernement nécessaire pour me conduire au milieu de tant de choses exercées. C'est là que j'aurai la sagesse qui convient. Et c'est là aussi que je donnerai la parole qui sera propre à l'édification. Parce que dans nos rassemblements que Dieu encore dans sa grâce nous permet, sous son regard, autour de sa parole, devant laquelle on a dit, nous devons avoir le plus grand respect. On ne traite pas la parole de Dieu comme un livre humain. C'est profane, c'est ce que la parole vient nous dire, c'est profane. C'est le livre de Dieu. C'est le livre qui renferme toutes les pensées de Dieu, tous les conseils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, quelle attitude devons-nous avoir devant cette parole? Eh bien, dans nos rassemblements, ce qu'il faut désirer, et c'est le désir, ça doit être le désir de chacun des membres du rassemblement, nous sommes tous solidaires. Ce qu'il nous faut désirer quand Dieu nous permet de nous rassembler comme maintenant, c'est que nous soyons édifiés. Et c'est en recevant ces choses par l'intelligence que nous nous sommes. C'est en recevant ces choses dans le cœur et dans la confiance. Personne ne peut entrer dans un cœur d'or. Personne ne peut toucher une conscience d'or. Il n'y a que Dieu. Alors quand nous sommes rassemblés, ce qui est important pour nous, c'est de dépendre de Dieu. C'est de dépendre du Saint-Esprit. Et comment le ferai-je si je ne vis pas avec Dieu? Ce ne sera pas inopinément que je pourrais faire cela. Ce sera le résultat d'une communion heureuse, bénie, prolongée avec Dieu, qui me permettra de présenter ainsi ce qui est selon Dieu, et pour le bien des saints. Car je dois ainsi désirer avant tout le bien des saints. Quel prix ils ont pour Dieu, les saints. Combien Dieu les aime. Et combien Dieu sent très bien dans les temps où nous vivons qu'un des grands dangers qui nous guettent, c'est la distraction. Nos cœurs sont remplis de mille et une choses. Et ces choses éternelles qui devraient avoir un prix infini pour nous, hélas, nous les mettons souvent au second plan. C'est pourquoi nous sommes si faibles spirituellement. Et tu dis quoi être approuvé à Dieu, c'est d'avoir en soi-même, dans son fort intérieur, dans les rapports que j'ai avec Dieu, vous ne savez pas les rapports que avoir avec Dieu, et ni moi je ne peux pas connaître vos rapports que vous avez avec Dieu. Ça, c'est le secret de Dieu. Mais dans le secret de Dieu, il faut que j'ai l'approbation de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il en résultera? Je serai fort, moralement, spirituellement. Si je ne suis pas compris, peut-être, bien sûr, j'ai Dieu avec moi, et alors je peux avancer avec cette certitude que je suis là dans le chemin de Dieu pour faire ce qui m'a conduit. Eh bien, combien nous avons besoin, surtout dans le temps entre nous, de considérer toujours cette parole que nous avons entre nos mains comme la parole de Dieu, et que nous soyons devant elle dans un saint tremblement, que nous désirions nous mettre à la lumière de cette parole, et que nous disions au fond nous-mêmes, avec le désir que Dieu le fasse, parce que c'est un Dieu d'amour, et c'est bien tout ce qui peut nous éloigner de lui, sonde-moi, oh Dieu, connais-moi mes pensées, et pour moi, connais mon cœur, et vois en moi s'il y a quelque voie de chagrin. Nous devrions le demander toujours à Dieu, plus que jamais maintenant.
Pourtant, de l'insister sur cette pensée de l'édification. Dans notre verset 14, il est parlé de la subversion des auditeurs. Combien ce terme d'édification fréquent dans les épîtres, ce terme devrait nous frapper et rester gravé sur la tablette de notre cœur. Quand nous présentons la parole de Dieu, recherchons-nous toujours ce qui édifie les auditeurs. Cela est extrêmement important, qu'il s'agisse de la présentation de la parole doctrinale, ou de la parole évangélique, ou de la parole prophétique, toujours rechercher cette édification si indispensable à nos âmes. N'est-il pas frappant de voir dans le livre des Actes des Apôtres, au début de ce livre, il est parlé, il est rendu un beau témoignage aux premières assemblées. Elles marchaient dans la paix, dans la crainte du Seigneur, étant édifiées. Et à la fin de ce livre, alors que le serviteur de Dieu va quitter la scène de cette terre, il prend congé des anciens de l'assemblée à Éphèse, et finalement, il les recommande à Dieu. Et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir d'édifier, et de donner un héritage avec tous les sanctifiés. Au début, à la fin du livre, il semble que ce mot édifié a une résonance particulière. Dieu a tenu qu'il en soit ainsi pour que nous soyons ainsi exhortés à édifier toujours. Deux ou trois passages dans les épîtres connus de la plupart d'entre nous, par exemple dans l'épître aux Romains, il est parlé au chapitre 14. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, au chapitre de l'action dans l'assemblée, combien de fois nous trouvons ce mot édification, ce verbe édifier. Et dans la deuxième épître, à deux reprises, l'apôtre Paul dira qu'il a reçu une autorité particulière de la part du Seigneur, non pas pour la destruction, mais pour l'édification des saints. Et dans l'épître aux Éphésiens, il y a alors cette pensée qui n'est pas directement en rapport avec l'action dans l'assemblée, mais d'une façon générale. Quant à nos paroles, le verset 29 du chapitre 4 nous dit ceci: qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin. Pourquoi ? Afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Il est nécessaire que nous pesions l'importance d'un tel enseignement, d'une telle exhortation. Ce verset 29 d'Éphésiens 4. Et alors, aux Thessaloniciens, il est rendu ce beau témoignage: édifiez-vous l'un l'autre comme aussi vous le faites. Les Thessaloniciens s'édifiaient mutuellement, et l'apôtre est heureux de le relever, et en même temps les encourager à continuer dans cette voie de l'édification. En effet, recherchons cela dans le ministère de la parole, et spécialement au sein de l'Assemblée, l'édification, en contraste avec cette subversion des auditeurs dont il est parlé ici.
À nous édifier. De qui avons-nous besoin? À qui faut-il nous attacher de tout notre cœur? C'est du Seigneur Christ. Dans nos rassemblements, eh bien, nous pouvons être édifiés dans la mesure
où la personne de Christ, dans l'excellence de sa personne, comme aussi dans la valeur infinie de son œuvre, et aussi ce qu'il est pour son Dieu. C'est un côté que nous oublions facilement, pensant qu'à nous, mais c'est une vraie bénédiction quand nous sommes amenés à entrer un peu plus chaque jour dans cette pensée, ce que Christ est pour son Dieu. Et voilà ce qui est propre pour l'édification. Nos anciens, nous savons, ils ne pouvaient pas prendre un passage dans les Écritures, depuis le commencement jusqu'à la fin, pour nous présenter d'une manière ou de l'autre la personne de Christ. Et pourquoi faut-il que nous soyons édifiés? Premièrement, pour la gloire de Dieu. Parce que quand les saints sont édifiés, ils s'attachent à Dieu. Ils s'attachent à Christ. Et pour le secondement, ce dont nous avons besoin plus que jamais, sans que nous nous en rendions compte, secondement, pour nous détacher du monde. Ce n'est pas des ordonnances pour ça. Mais si mon cœur est nourri de Christ, si mon cœur est attaché à Christ, si mon Christ est vraiment, c'est avec Dieu qu'il faut penser ça, si Christ est mon trésor, je n'irai pas courir après tout ce que le monde présente, après tout ce que le monde offre. J'ai Christ et cela me suffit. Que Dieu veuille ainsi nous donner d'être devant sa parole, dans la prière, pour nous approcher de la parole de Dieu contre nous. Il serait inconcevable qu'un racheté n'ouvre la Bible qu'une fois par semaine. Il serait inconcevable. Il nous faut ouvrir la parole chaque jour, dans la prière, dans la dépendance du Saint-Esprit, et demander à Dieu, révèle-moi tes pensées, révèle-moi ton cœur, révèle-moi Christ, enrichis-moi des choses d'en haut. C'est ce dont j'ai besoin.
Plantés, nous serons gardés de deux dangers. D'une part, le légalisme, et d'autre part, le relâchement des principes chrétiens. Il faut apporter la farine. Christ, ce qu'il est dans sa personne, dans son humanité, dans ses souffrances, dans ses gloires. Si Christ est apporté, nous connaîtrons cet équilibre chrétien. Et nous serons gardés de ces deux courants très, très dangereux aujourd'hui. Un mot encore sur cette exposition de la parole de la vérité. Faut-il pas voir là le fait que nous avons à être dépendants du Saint-Esprit pour laisser les vérités à leur place. Ne pas mélanger les vérités divines. La vérité, évidemment, c'est un tout, c'est Christ. Mais il y a dans l'Écriture, par exemple, si nous prenons l'Épître aux Romains, dans la partie doctrinale, nous distinguons très bien deux parties. Jusqu'au chapitre 5, verset 11, il s'agit des péchés et du pardon. Et à partir du verset 12 jusqu'à la fin du 8e, il s'agit du péché et de la délivrance qui s'y rapporte. Il n'est pas dit non plus que Dieu a aimé l'Église. Il est dit que Christ a aimé l'Assemblée et que Dieu a tant aimé le monde. Il est peut-être important de rappeler que les vérités doivent être laissées à leur place. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire à discerner cela.
Pour revenir brièvement à l'attitude du croyant vis-à-vis de la parole de Dieu, ce respect dont il a été parlé, cette crainte avec tremblement vis-à-vis de cette parole, ne doit pas nous empêcher de désirer et de désirer ardemment la comprendre. C'est bien la parole de Dieu et à ce titre-là, elle est insondable. Mais c'est aussi une parole adressée aux hommes, à l'homme naturel pour le toucher, pour le convertir, et au croyant pour l'édifier. Et à ce titre-là, si l'intelligence de l'homme naturel est absolument incapable de rien saisir des vérités, l'intelligence renouvelée qui est dans le croyant est-elle, au contraire, capable de saisir ces vérités qui doivent nourrir la vie du croyant et tout son être.
De trembler devant la parole de Dieu prouve qu'on est en rapport avec Dieu et prouve qu'on est dans un état où l'on désire au contraire connaître cette parole. Parce qu'on sait très bien que c'est la pensée, les pensées de Dieu qui sont révélées. Parce qu'on sait très bien que Christ remplit les Écritures et qu'il nous faut les Écritures constamment. Justement, le fait de trembler devant la parole de Dieu, cela ne m'éloigne pas de cette parole, bien au contraire, bien au contraire. Elle met dans un état qui convient pour que ces pensées de Dieu qui sont enfermées là ne soient révélées. Et dans les choses de Dieu. Nous avons fait l'expérience certaine. Quand on a goûté un peu de ces choses, on en veut toujours plus. Toujours plus. Et c'est sur un terrain ainsi où l'on croit, on grandit dans la connaissance de ces choses. C'est un terrain où tout est infini. Parce que c'est de Dieu. Mais vous atteindrez la perfection là. Et bien combien nous avons besoin de cet état spirituel qui convient pour que nous nous attachions de tout notre cœur aux Écritures et à celui tel qu'il est qui démontre.
Un peu plus de ce que nous dit la Côte Claire dans les derniers versets de sa seconde épître, à savoir que le croyant puisse croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ.
Il est parlé donc de discours vains et profonds. Les discours vains sont les discours inutiles qui ne produisent rien pour ce qui est de la gloire de Dieu. Et puis les discours profanes, ce sont ceux qui s'attaquent à la parole de Dieu, à la personne du Seigneur en particulier. Il faut donc prendre garde à de tels discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole ronchera comme une gangrène. L'image employée par l'apôtre est très forte, l'image de la gangrène qui progresse, qui se développe, et qui aboutit à la nécrose de l'organe atteint. Voilà ce que produit, c'est véritablement la destruction, le contraire de l'édification. C'est la destruction dont parle l'apôtre Paul à la fin de sa deuxième épître aux Corinthiens. Leur parole ronchera comme une gangrène, desquelles sont Hyménée et Philette qui se sont écartés de la vérité. Il est parlé ici de ceux qui sont écartés de la vérité. Au chapitre 3e, il est parlé de ceux qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et dans ce même chapitre 3, au chapitre 4e, il est parlé de ceux qui détournent leurs oreilles de l'enseignement de la vérité. Eh bien, Hyménée et Philette, il est frappant de voir que ces hommes sont mentionnés au nombre de deux souvent. Des faux docteurs agissent deux par deux, renforçant pour ainsi dire leurs efforts l'un par l'autre. Ces hommes sont redoutables, faut-il le dire. Eh bien, Hyménée et Philette s'étaient écartés de la vérité et ils disaient que la résurrection a déjà eu lieu, par là même ils renversaient la foi de quelques-uns. Ils disaient que la résurrection avait eu lieu, se basant peut-être sur l'enseignement de l'apôtre Paul qui parle de la résurrection morale qui est la part de tout croyant. Nous sommes morts avec le Christ, nous sommes ressuscités avec le Christ, nous sommes cela maintenant. Et alors, à partir de cette vérité, ils en arrivaient à cette déduction
force implique que la résurrection avait déjà eu lieu, il n'y avait pas donc de résurrection du corps à attendre. C'était en fait l'annulation de la bienheureuse espérance du chrétien. Il fallait donc éviter de tels discours, éviter le contact avec de telles âmes, dont le travail n'était rien d'autre que la destruction, il est dit ici, il est parlé ici du renversement de la foi de quelques-uns. Combien il importe que nous demeurions en toute simplicité de cœur attachés, comme nos frères nous y ont exhortés tout à l'heure, attachés en toute simplicité à la parole de Dieu, cette parole qui est la vérité.
Avec quelle insistance l'apôtre nous parle de ces disputes de mots et de ces querelles, et soulignant les résultats si graves, qui en sont la conséquence. Dans la première épître, au chapitre 6, déjà il y en a parlé. Cette maladie des questions, verset 4 du chapitre 6, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement, privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de guerre. Il revient ici au chapitre 12, on l'a fait remarquer, verset 14, chapitre 2, verset 14, les disputes de mots, ce qui s'en profite, et pour la subversion des auditeurs. Nos frères bien-aimés, dont on fait pour l'absence, expliquant ce passage, disait que ce mot subversion pourrait dire littéralement la catastrophe. La catastrophe. Et puis, un peu plus loin, encore au verset 16, alors c'est la gangrène. Voilà le résultat. La gangrène. La gangrène est aussi, on s'écarte de la vérité. Un peu plus loin encore au verset 23, il y reviendra. Et puis des questions folles et insensées, elles engendrent des contestations. Toutes ces choses qui sont, bien entendu, incompatibles dans les questions du ministère et dans la famille.
Dans l'assemblée non jugée, il ne faut jamais penser qu'il va s'occuper ses dents. Pas du jour où il grandit. C'est une gangrène. Et quand c'est gangrène, c'est trop tard. Trop tard. Toutes ces erreurs, toutes ces pensées qui sont des pensées au fond de notre propre, de la propre imagination de l'homme, c'est ce qui doit toujours nous arrêter, c'est que cela prépare le terrain sur lequel Satan va faire déployer toute sa force, toute sa subtilité, tous ses artifices. Et alors, c'est là. On abandonne la foi, on abandonne la vérité, et c'est péché total. C'est bien préparer son terrain. Il y mettra le temps qu'il faut, parce que si nous disons que Dieu nous connaît parfaitement, mais il faut dire aussi que Satan nous connaît plus la chute. Et il s'est bien préparé son terrain dans les cœurs, pour quand le terrain est préparé, il lance toutes ses erreurs, et c'est la chute.
Soirbeau vient d'utiliser la force qui est traduit en français par ce mot subversion, est en effet exactement ce mot du texte original, la catastrophe de ceux qui entendent. La catastrophe de ceux qui entendent. Le mot expressif est, vous êtes bien à comprendre ce qu'est cette subversion des auditeurs.
Mon pensée, c'est que dans ce travail, que l'ennemi fait parce que nous avons été rebelles, ce qui est le plus grave et le plus sérieux, c'est que ces producteurs ne s'en rendent pas compte. Ils croient être dans le bon chemin et que les autres sont en erreur. C'est ça, parce que la première chose qu'on perd quand on abandonne des mains de la vérité et de la communion, c'est le discernement. On ne sait plus discerner la pensée future. Et sans s'en rendre compte, on appelle mal ce qui est bien, et on appelle bien ce qui est mal. C'est une preuve qu'on a perdu le contact avec Dieu et qu'on s'est laissé entraîner sur un terrain déjà terrain.
Il n'est pas certain que cet hyménée soit le même que celui qui est nommé dans la première épître, au premier chapitre, verset 20. Mon frère Dr Rossier dit que ce n'est pas certain que ce soit la même. En tout cas, si c'était le même, eh bien, la discipline n'a pas porté de fruits. Il est allé plus avant dans les fêtés.
Alors, après ce tableau de renversement, de destruction, combien on est heureux de trouver avec le verset 19 quelque chose de seul. Ce n'est rien moins que le fondement de Dieu. Ce que Dieu établit. Ce que Dieu établit ne peut pas être ébranlé. La montagne aussi, on ne peut pas être ébranlé. C'est Dieu qui l'a fait. Ce fondement de Dieu, nous devons sans doute le prendre dans son sens le plus général. C'est tout ce que Dieu établit. Tout ce que Dieu établit a ce caractère, il est solide. Les deux faces du sceau qui sont apposées sur ce fondement, pour ainsi dire, elles sont là, elles nous donnant une assurance, une certitude. Quant au premier, voilà, Dieu qui connaît, il sait, il connaît les siens. Le Seigneur l'a dit, je connais les miens, je connais les miens, moi je les connais. Il dit, alors qu'il énonce en faveur de ses brebis, des affirmations qui me surprennent, les brebis écoutent ma voix, et puis elles me suivent, et elles nous dirions, eh bien, oui, mais comme tout cela est sujet souvent à la lacune entre ces deux affirmations, mais pas. Ce sont sans doute des côtés un peu différents. Là, il s'agit, quand le Seigneur dit « moi, je les connais », c'est qu'il a une pleine connaissance de tout ce qui nous concerne, de tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous sommes, est absolument nu et découvert à ses yeux. Et c'est une chose très précieuse de penser que, quelles que soient nos faiblesses et nos manquements, qui quelquefois nous jettent par terre quand nous les découvrons, ne seront pas pour le Seigneur un sujet d'étonnement. Il nous connaît. Mais c'est quelque chose de très précis. Ici, c'est autre chose, ce n'est pas vrai. Connaissez, ce n'est pas cette connaissance de ceux qui sont, la connaissance de ce qui les concerne, mais le discernement de ceux qui lui appartiennent et de ceux qui ne lui appartiennent pas. Il connaît qui lui appartient. Dans ce monde troublé, nous serions quelquefois bien en peine de dire de tel ou tel. A-t-il vraiment la vie de Dieu? Et même quand nous serions portés à donner une affirmation, nous sommes souvent sujets à erreur. Mais il n'y a pas d'erreur du côté de Dieu. Il connaît. Il connaît ce qui s'en tient. Oui, il y aura des surprises, sans doute, lorsque l'Église sera enlevée. Il y en a peut-être qui seront laissés, et que tout le monde croyait au Seigneur. Et peut-être que d'autres, sur lesquels nous avions bien des doutes, seront enlevés. Il n'y aura pas d'erreur à ce moment-là. Alors, il connaît, il sait bien qui est-ce qui est accusé. Comme autre pendant de cette affirmation magnifique, il y a alors ce qui s'impose à ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, ils
confesse son nom, qui prononce l'ordre du nom du Seigneur, qui se réclame de lui, qui se dit être de lui, eh bien, soyez saints comme moi je suis saint, est-il rappelé au début de l'épître Pierre, alors qu'il se retire. De quoi? Ben, de tout ce qui n'est pas selon sa pensée. L'iniquité, d'une façon générale, n'est pas présentée comme tout ce qui est sans la voix de Dieu, au contraire de la voix de Dieu, ce qui est sans fin. Ou bien c'est un sens différent dans ce cas-là.
Et
tu te c'est un principe de séparation qui est imposé en premier lieu dans ce nouveau sujet qui s'ouvre au monde. Il y a beaucoup de mélange dans ce monde. Il y a un mélange énorme dans cette grande maison. Ça va être développé. Mais Dieu n'aime pas le mélange. Mais pour lui, les choses doivent être bien tranchées. Et elles le sont en fait. On est d'un côté ou de l'autre. On est à lui, on ne l'est pas. On est reconnu par lui comme étant l'un des siens, non. Et alors, il y a une séparation. Une séparation, bien nous dirions d'abord, bien sûr, de ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Nous disons déjà, ben, c'est difficile à discerner. Mais une séparation de tout ce qui porte ce caractère de non-soumission entière à la parole de Dieu. Voilà, je crois un peu ce que c'est que cette iniquité dont il faut se séparer. Et tout ce qui ne porte pas ce caractère de soumission. L'eau enfreinte, alors, se retirer. Nous avons d'autres passages où il est question de se retirer. Le croyant est invité, quelquefois, à se retirer de telle ou telle vie. Et s'il se retire de l'iniquité. C'est un des passages sur lesquels le passage peut-être essentiel, mais sur lesquels s'est fondée la marche des croyants qui ont opéré précisément cette séparation sectaire. Ils en ont été beaucoup critiqués. Aujourd'hui encore, c'est un reproche qui leur est adressé à ceux qui se retirent des systèmes où l'autorité, où la parole de Dieu ne fait pas pleinement d'autorité. Et justement, n'est-ce pas, cela rend très actuel, et sans doute cela sera largement développé, cela rend d'une actualité toute particulière cet enseignement-là. Parce que, aujourd'hui, la chose est remise en question. On dit, mais, oh, cette séparation, mais c'est du fantaisme, mais cette séparation, mais c'est de l'orgueil. Cette séparation, c'est l'humble obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes très heureux d'arriver à ce passage. Nous sommes bientôt à la fin de la réunion, mais on ira, on y reviendra sans doute largement la prochaine fois. Je crois que nous sommes là sur l'une des pages d'écriture la plus importante, pour le temps actuel. Parce que cela répond à une menace, à un danger, à une incompréhension. Alors il faut que la parole de Dieu vienne à nous, voilà, dans sa simplicité et sa force, pour que nous soyons bien convaincus de ces choses. Ce qui importe, c'est de ne pas aller dans le chemin, simplement par imitation, mais parce que ceux qui nous ont précédés ont marché de telle ou telle manière. Il faut y aller, il faut aller en avant, dans la pleine conviction que l'on est sur le chemin du Seigneur et dans la parfaite conscience de sa volonté, de son patrimoine.
Serviteur de Dieu dont
nous avons sans doute le plus reçu, et qui est, si pas dans le cœur, dans l'esprit de beaucoup de personnes, peut nous dire ce qui a gouverné sa vie, ce qui a déterminé sa carrière. C'est un passage de la parole de Dieu, semblable à celui que nous avons ici devant nous, et que nous lisons dans le prophète Jérémie, et la lettre de ce serviteur de Dieu dans laquelle il expose les motifs, les conditions dans lesquelles il s'est trouvé, après la lecture de cette parole de Dieu qui s'est imposée à lui de façon si forte. Cette lettre ne manque pas d'impressionner le lecteur. Et voici le passage de Jérémie 15 et au verset 19. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, Jérémie avait une tendance dans cette affection si chaude pour Israël, à l'accompagner, à le suivre. Mais le Seigneur lui dit, Jérémie, il faut t'arrêter sur ce chemin d'identification avec ce peuple qui se vautre dans le péché de la façon la plus horrible. Si tu te retournes, je te ramènerai, tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares, si tu te retournes, si tu cesses de t'identifier, quelle que soit la chaleur de tes sentiments, la réelle affection que tu portes à ton peuple, il faut que tu te retournes. Il est impossible que tu continues à t'identifier avec lui. Il faut que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Il faut que, autrement dit, cela vient d'être rappelé, que tu obéisses et que tu sois gouverné par le caractère que je porte de sainteté, c'est-à-dire d'absolue séparation avec le mal, de quelque nature qu'il soit. Cela n'a rien d'orgueilleux. Ce qui est de l'orgueil, c'est ce qu'un autre prophète dira, et qui plane dans la bouche de ce peuple religieux rempli de lui-même, imbu de ses privilèges, mais sans qu'aucun caractère moral y réponde, et qui disent aux étrangers, « Tiens-toi loin !» Ésaïe 65, verset 5, « Tiens-toi loin, ne me touche pas, car je suis saint vis-à-vis de toi. » Cette séparation charnelle, orgueilleuse, religieuse, elle est abominable pour Dieu. Ce pharisaïsme, que nous connaissons bien à travers l'Écriture, et avec lequel d'ailleurs, l'apôtre a eu tant de douloureux démêlés. Retire-toi de moi, je suis plus saint que toi. Je jouis de privilèges que j'ai reçus de Dieu et il veut en jouir, il veut les affirmer indépendamment de son caractère. Chose que Dieu réprouve et rejette entièrement comme un orgueil qui est le pire de tous. Ce pharisaïsme, retire-toi de moi, je suis plus saint que toi, est abominable pour Dieu. Mais si tu sépares ce qui est précieux avec ce qui est vil, si tu te laisses conduire par la vérité, gouverner par ce que je suis, par mon caractère de sainteté, que je ne renie jamais, en aucun cas et pour qui que ce soit, alors tu seras comme ma bouche et tu seras un vase utile pour moi.
Solennel qui nous montre la ruine complète de l'Église, pas seulement du témoignage, de l'Église, la ruine totale qui va vers les jugements terribles qui s'amoncellent vers un ciel dans lequel s'abassent des nuages terribles. Eh bien, c'est celui-ci. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Prenez le livre des Actes. Prenez les premiers chapitres des Actes. Vous n'avez pas besoin de ça. On sortait du judaïsme. On abandonnait le judaïsme. On sortait d'abandonner le judaïsme. Et on était sur sur le terrain le terrain de la vérité, sur le terrain dont nous parle le livre des actes. Et Dieu le Seigneur ajoutait justement toutes les âmes qui devaient être sauvées. C'était clair, c'était net, il n'y avait pas de confusion possible, et bien maintenant, voilà, voilà. Il nous faut réfugier au milieu de toute cette ruine sur cette déclaration précieuse, c'est que le Dieu le Seigneur connaît ceux qui sont siens. De telle façon que si le Seigneur venait maintenant, eh bien tous ceux-là qui sont dans tous les systèmes, perdus dans les systèmes, ils entendraient la voix du Rédempteur et nous partirions tous ensemble à la rencontre du Seigneur en l'air. Il n'en resterait pas un. Le Seigneur connaît ceux qui sont sur quel ordre. Mais c'est la mesure, la ruine dans laquelle l'Église est tombée. Parce que pour le temps, Dieu, le temps, Dieu ne compte pas. Il y a des siècles que ça s'est produit, mais voilà le résultat de l'Église comme témoignage au lieu de ce monde. Elle était laissée là comme un porte-lumière pour rendre témoignage à son Seigneur qui est dans la gloire. Et bien c'est là.
La première parole que nous avons ici, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et donc pour nous, une parole encourageante. Elle élargit nos cœurs en nous rappelant qu'il y a beaucoup de croyants dans tous les lieux, grâce à Dieu. Ça nous élargit dans nos cœurs, dans notre affection. La deuxième parole fait appel alors à notre responsabilité. Il ne s'agit pas de vouloir excuser, ou corriger, ou améliorer le milieu dans lequel on pourrait se trouver. Non, l'injonction est très claire, qu'il se retire. Et elle est individuelle, qu'il se retire, sans attendre les autres. C'est un appel individuel qui doit être obéi.
La conscience ne fait jamais agir en masse. La conscience est individuelle. Et ici, nous en avons une affirmation très remarquable, qu'il en est fait au singulier qu'il se retire. L'unité extérieure peut avoir un tel prix pour le cœur que l'on serait tenté d'essayer d'améliorer l'environnement moral, de corriger ce qui est faux ou corrompu. Mais ce n'est pas le moyen que Dieu place devant nous. La seule manière d'obéir à Dieu, c'est de suivre cette injonction, qu'il sortisse du mal, quel qu'il soit, quiconque prononce le nom du Seigneur, celui qui est le saint et le véritable, pas seulement le mal grossier, le mal moral, dont quelqu'un qui a quelque éducation se détourne sans doute, mais tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. On verra plus tard, sans doute, que l'iniquité n'a pas seulement le sens de péché grossier, d'ordre moral, mais que c'est aussi tout ce qui porte atteinte à la vérité de Dieu. Et le premier principe d'unité, a-t-on dit, c'est bien celui-ci. Il commence par se séparer du mal. C'est le premier principe à la base de l'unité selon Dieu. Le reste, ce que l'homme établit sans être gouverné par cet impératif, ce n'est plus de l'unité, c'est de l'union, l'union selon l'homme. Rien de comparable, rien à comparer avec l'unité selon Dieu. Donc le premier principe est le respect du caractère de Dieu, Dieu de sainteté. Soyez saints comme moi je suis saint, non pas appelé à devenir saint par des efforts que nous consentirions ou sur le pied du parisien, mais à respecter ce caractère de Dieu que nous possédons par la nouvelle nature que nous recevons de lui.
Dans Hébreux 13, nous avons un verset très significatif,
en te mettant à pôle avec ce que nous avons devant nous ici. Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifie le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui, hors du camp, portant sous notre ordre. En fait, il nous faisait remarquer il n'y a pas longtemps, il n'est pas dit sortons hors du camp, sortons vers lui, vers lui. Jésus qui a souffert hors de la porte. Voilà la personne vers qui nous sortons. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, se trouve à Éphèse. Et il y a discouru avec un pièce pendant 3 mois. Perçut Adam des choses du royaume de Dieu. Mais quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude. Que fait Paul? Lui s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples. Voyons donc avec quelle énergie cet apôtre qui écrit ici à Timothée,